Henri Rouleau, Crime d'enfant. La légende de Bouddha, offrant son corps en pâture aux petits d'une tigresse parce qu'ils ont faim, ne fait que traduire en un sacrifice sublime l'exaltation du sentiment de solidarité des êtres. Nos sentiments de bonté que nous vantons en toute occasion, ont-ils vraiment progressé depuis cette antiquité reculée envers les hommes dont l'état social condamne à tant de tortures, ou envers l'innombrable troupeau que nous poussons vers les abattoirs ou que nous faisons périr à coups de fouet pour la satisfaction de nos besoins? La réponse à cette question est au moins douteuse. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que la pitié humaine ne se laisse pas fragmenter. Qui est bon envers les hommes est nécessairement bienfaisant envers les animaux et réciproquement. En effet, comment pourrait-on concevoir une âme douce aux bêtes et cruelle aux pauvres humains? Au rayonnement d'amour envers tous ses compagnons de destinée, à l'expression d'altruisme vers tout ce qui est, vers la bonne planète qu'il enchante de ses spectacles et l'univers sans fin qu'il épouvante de ses problèmes. Se mesure la noblesse de l'homme et l'élévation de son génie. Quelle route infinie de progrès! Oh, si nous vivions, si nous voulions! Je promenais ces pensées un soir d'octobre, à l'heure blafarde du crépuscule, sur les quais en face du marché Bon Secours. L'endroit était presque désert, le ciel lourd, la bise fouilleuse et agressive, l'eau morne. Je sentais que la nature fermée se refusait à l'homme, à la bête, à la vie. C'était enfin une heure de désenchantement. Je cherchais vainement quelque chose, quelque espoir, dans le ciel d'impitoyable acier bruni. Et sentant que la griffe dure ne voulait pas me lâcher, j'essayais de me consoler par l'esthétique des choses. Devant moi, Montréal, haletant et silencieux, étale à perte de vue, à droite et à gauche, son flanc immense et enfumé. À mes pieds, la descente paresseuse du fleuve qui semble s'attarder par moments, avec le regret de n'avoir pas une vue à dévorer, et l'amas confus des cordages, des madriers, des ballots, des futaies, des pieux dressés, puis le relent du port, le clapotis des eaux, et là-bas, de l'autre côté, l'île Sainte-Hélène, aux arbres emmêlés, nus, dans une lueur de pourpre blême, refuge du rêve, dans cette misère de la nature, qui semblait se désoler de l'arrivée prochaine et inévitable d'un rigoureux hiver. Un groupe d'enfants sur la berge, par sa turbulence, par ses cris, ses appels, par ses éclats de rire, me tira de ma rêverie. Les petites mains tendues vers l'eau et les pierres que jetaient ses polissons dirigèrent mes regards sur une tache noire qui flottait sur l'eau. Les gamins rivalisaient de cris, de sifflets d'encouragement et de joie en criant « Par ici, par ici, le voilà !» faisant de grands gestes et redoublant d'ardeur dans leurs exercices de balistique rudimentaire. Le point noir était un fragment de poutre. Et soudain, une boule noire se dessine à côté, se hisse péniblement sur cette étrange bouée. C'était un pauvre chien efflanqué qui cherchait désespérément à se séparer de son instrument de torture ou à flotter dessus. La misérable bête, en effet, était reliée à la poutre par une corde qui lui enserrait le cou. Cette corde, trop courte pour lui permettre de rester sur son radeau d'occasion, sans l'étrangler, était d'une longueur suffisante pour transformer le flotteur en projectile. Dès que le chien faisait des efforts inouïs pour se débarrasser de son entrave, chaque secousse provoquait une évolution brusque de la pièce de bois, et la pauvre bête en recevait un coup violent à la tête. Impossible de plonger, impossible de fuir, impossible d'escalader l'implacable bélier. Et là-bas, les enfants, les bourreaux, lui jetaient des pierres ou l'appelaient avec des accents d'impitoyable dérision. Ah, quel triste naufragé! Il sent bien qu'on l'appelle, mais qui? Ami ou ennemi? Il essaye de se dresser aux écoutes, mais la corde infernale lui meurtrit les chairs et il retombe dans l'eau indifférente. Où aller? Que faire? Alors il va au hasard, se tourne, se détourne, revient, recommence, et dépense inutilement de douloureux efforts. À chaque instant, le bloc inerte qu'il meut avec une rage folle s'abat sur sa tête, et il ne peut éviter ces chocs brutaux au prix de la noyade ou de la strangulation. Oui, mais de tous les animaux, l'homme est le seul qui ait recours au suicide. La bête n'abandonne jamais, elle lutte toujours, et le martyr des petits mauvais drôles se débat désespérément, dépassant s'arrête, apitoyé, il prononce des mots d'une pitié banale, puis, sous l'air vif qui les pique, reprennent leur chemin interrompu. Pour le chien agonisant, point de recours et point de secours. L'altruisme humain, qui chez les spectateurs est un instant éveillé en faveur de la bête en péril, a été balancé par des considérations d'égoïsme, inavoué peut-être, inconscient. Et de ces deux efforts opposés, il résulte une bonté neutralisée qui équivaut à l'abandon. À ce moment, le chien a pourtant senti passer un courant d'amitié, mais quoi? La bonté est inefficace si elle n'est pas secondée par l'action. La nuit tombe. Les gamins, las d'un jeu où leur cruauté n'éprouve plus de la volupté, à cause des ténèbres, sont partis en quête d'autres exploits. Je vois presque plus le point noir. Je n'entends plus les gémissements de la bête. L'âme, silence se fait pour la mort. Je me détache péniblement de ce lieu glacé, dans le sentiment d'une bonne volonté vaine. C'est de la vie que je laisse sans secours près de moi. C'est du sang qui se fige, c'est des nerfs qui sont torturés et qui vont frémir sous la tenaille de la mort jusqu'à l'anéantissement final. Je fais 10 pas, je me retourne, par le point noir est presque immobile. Je reprends ma route, toujours regardant en arrière la tache incertaine qui diminue. Oh, j'ai cru même avoir remué quelque chose, peu importe, puisque le sort en est jeté. Il faut bien que le crime de l'enfance s'accomplisse. Après tout, j'en prends ma part aussi, puisque je suis simplement resté spectateur impassible de la scène du meurtre. Pauvre chien, il a fini maintenant son temps de misère. Son cadavre va rouler tranquillement jusqu'au remous de quelques baies où l'eau clapotante, petit à petit, l'emmènera au grand courant des choses et il fera de sa pitoyable souffrance la joie des frétillants poissons dont nous nous délecterons au prochain carême.